Le message que je vous apporte ce matin, c'est d'avoir nos yeux sur Christ. Parce que c'est lui qui fait la différence. Mais malheureusement aussi, et ça c'est dans le texte aussi qu'on va voir ce matin, c'est qu'il y a une autre réalité, c'est qu'il y a aussi la faiblesse humaine. On est encore des êtres humains. On est encore des hommes. On est encore des femmes. Et des fois, il y a encore un peu d'hommerie hein, en nous. Il n'y a pas assez de Christ, un peu trop de nous. Et c'est une réalité. Et on la vit. On la vit dans nos vies personnelles, on la vit dans nos vies de couple, on la vit dans nos vies de famille, et on la vit certainement dans la vie d'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Et le texte de ce matin, c'est cette vérité que j'aimerais qu'il ressorte. À quel point Dieu est puissant par Christ. Et en préparant le message de ce matin, qui est une série qu'on a commencée à Trois-Rivières, et le thème, parce que c'est 1 Corinthiens, le livre qu'on va étudier pendant l'année, et le thème que j'ai mis devant l'Église, vous allez l'aimer, c'est une Église moderne, pas mondaine. Et l'Église d'une Église moderne, c'est une Église d'aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire, moderne. Regardez dans le dictionnaire, là, et le mot moderne, c'est une Église de son temps, une Église actuelle, une Église d'aujourd'hui. Mais pas mondaine. Et il y a une tension, là, entre être moderne et être mondain. Et j'ai même donné l'exemple d'un groupe qui, dans l'histoire, a pas voulu être moderne. Parce que pour eux, moderne voulait dire aussi mondain. Et vous connaissez peut-être ce groupe-là, certains d'entre vous, qui existe en Ontario. Il n'y en a pas au Québec, mais il y en a en Ontario, puis aux États-Unis aussi. Et ça vient de l'Europe, c'est des Amish. Voilà, et certains ont visité, même l'été passé, dans un voyage organisé, là, ils sont allés en Pennsylvanie, où il y a une communauté d'Amish. Alors, eux ont associé le mot « moderne » à « mondain ». Et pour eux, tout ce qui est moderne est mondain. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent absolument à rien l'électricité, les moyens de transport, la technologie, l'ordinateur, toutes ces affaires-là. OK? Parce qu'ils ont cette association-là. Fait qu'ils ont, pour eux, c'était ça. Maintenant, nous, on dit non. On veut être moderne. Dans le sens de contemporain. D'aujourd'hui. Mais pas être mondain. Et l'épître, ou la lettre de Paul aux Corinthiens, est une très belle lettre qui est justement mais cet accent-là, je crois que Paul, quand il écrivait sa lettre, a pris en considération qu'est-ce qui se passait à Corinthe, et il voulait que l'Église soit de son temps, mais ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'elle soit mondaine. Et là, il voyait cette tension-là, puis là, il voyait la mondanité se manifester dans l'Église dans certaines choses. Et dans 1 Corinthiens, il commence. Et un des éléments que j'ai amené dans l'introduction de cette série-là, c'était que pour Paul, pour contrer la mondanité, c'est qu'il faut revenir à l'Évangile. C'est la seule, ben c'est un, il y en avait trois là, mais ça c'est le principal, c'est le plus important, de revenir à l'Évangile. De toujours. Et vous allez voir dans le chapitre 1 que je vais lire, et on va y aller étape par étape. Alors il y a cinq, on pourrait dire, aspect que Paul présente ici. Il va vraiment faire cette relation entre ce que j'appelle la faiblesse humaine, donc la tendance à être mondain, et la puissance de Dieu. Où là, tout à coup, c'est plus de l'homme. C'est plus juste de notre essor, de nos capacités. Là, il y a quelque chose de divin ici qui intervient. Et c'est ça qui vient contrer l'aspect de la faiblesse humaine. Et on va regarder ça ensemble. Mais le point principal, et dans 1 Corinthiens, c'est incroyable, et je ne prendrai pas le temps de lire les 9 premiers versets, ce qui était mon introduction, mais vous allez voir, dans 9 versets, Paul parle de Jésus, c'est comme pacté, compressé. C'est incroyable comment est-ce qu'il parle de Jésus dans les 9 premiers versets, parce qu'il veut emmener tout de suite, dès le départ, il va emmener l'attention de tout le monde Il faut revenir à l'Évangile. Il faut revenir à Jésus. Il faut revenir à qui est Jésus et à qui on est en Jésus et qu'est-ce qu'on a en lui. Parce que c'est ça l'élément principal. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander de bénir ce temps ensemble, qu'on puisse être vraiment autour de ta parole et que ton Saint-Esprit agisse dans nos cœurs. Toi, tu nous connais chacun de nous. Ta parole, elle reste puissante, vivante. Elle est pertinente et elle est pratique. Et Seigneur, ce qu'on te demande, c'est que ton Esprit nous aide à nous mettre devant toi face à ta parole et de laisser ta parole nous ramener à Jésus, nous ramener à l'Évangile, là où dans nos pensées, dans notre façon de raisonner, dans notre façon d'interagir, dans notre façon d'être, que Seigneur, tout ce qui a besoin de revenir à Jésus puisse revenir à Jésus. Et Seigneur, on te le demande en ton nom et pour ta gloire. Amen. Vous savez, une des caractéristiques qui m'a sauté aux yeux, et là, pour montrer à quel point la parole de Dieu, elle est pratique, puis elle est pertinente pour chacun de nous. J'étais en train de travailler sur ce texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et tout à coup, quand je me suis couché, ça m'arrive des fois, je ne sais pas si vous êtes de même, là, mais ça m'arrive des fois de prendre du temps à m'endormir. Puis là, ça bouge dans ma tête. Je pense à plein de choses. Mais là, c'était le texte de la parole qui était encore dans ma tête, puis interagissait dans ma tête, puis dans mon cœur. Puis là, tout à coup, il y a comme cette lumière qui s'est faite dans mon propre cœur, d'une réalité que je vis et que, voilà pas si longtemps, je ne vivais pas. Puis là, j'étais comme... J'ai dit, wow, c'est incroyable que c'est comme ça maintenant dans mon cœur. Parce que ça ne l'était pas, voilà pas si longtemps. Puis c'est dommage que ça ne l'était pas. Puis là, de voir que ça l'est. Et savez-vous, c'est quoi? Par rapport à la faiblesse humaine et la puissance de Dieu. Savez-vous qu'est-ce qui est venu différemment dans mon cœur? Aimeriez-vous le savoir? Il faut vous venir à Trois-Rivières. Non. 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 Mais c'est ceci. C'est que tout à coup, en ayant vu ce contraste entre la faiblesse humaine et ce que Paul essaie d'emmener aux Corinthiens sur la puissance de Dieu, c'est que tout à coup, en pensant à tout ça, c'est comme le Saint-Esprit a emmené sous mon cœur la réalité suivante. Benoît, avant, tu étais centré sur la faiblesse humaine et pas sur la puissance de Dieu. Et là, c'était comme, wow! C'est comme j'étais préoccupé par la faiblesse humaine. La réalité humaine, la réalité de mes propres faiblesses humaines ou la réalité de la réalité humaine qu'il y a tellement d'obstacles, puis il y a tellement de choses qui vont pas comme elles devraient aller et quoi faire pour changer ça? Et pas sur la puissance de Dieu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'était comme, on dirait que la faiblesse humaine est plus forte que la puissance de Dieu. Puis il y avait comme une résiliation. En disant, ben oui, c'est sûr. On veut bien, tu sais. Ah oui, c'est vrai, il y a la puissance de Dieu. Oui, c'est bon. Mais il y a la faiblesse humaine. Il faut composer avec la faiblesse humaine. Dans l'Église, il y a plein de choses qui ne vont pas comme elles devraient aller. Puis là, ah, pourquoi que ça va comme ça? Puis c'est comme ça pesait sur mon cœur, souvent. Puis moi, dans ma dynamique de personne, ben moi, à ce moment-là, je devenais un battant. Comprenez-vous? Où là, c'est comme, ça m'interpellait, puis là, c'est comme, OK, là, il faut faire des choses. Là, il faut organiser des choses, là, il faut régler des problèmes, puis là, il faut rencontrer des personnes, puis là, il faut faire ci, puis là, il faut faire ça. Puis là, je dis pas que ça, c'est pas correct, là. Mais je fais juste de dire que ça, c'était comme plus gros dans ma pensée et sur mon cœur que, mais qu'est-ce qu'il y en est de la puissance de Dieu? Qu'est-ce que ça fait dans le pratique, ça? En tout cas, juste pour moi, là. Qu'est-ce que ça fait dans le pratique? Je vais vous donner un exemple concret. Et là, on n'a même pas commencé encore au texte. Peut-être qu'on s'y rendra pas. Ben oui, on va y arriver, on va y arriver. Mais c'est une longue introduction, OK, sur la puissance de Dieu versus la faiblesse humaine. Mais dans l'aspect pratique, pour moi, ce que ça a fait, c'est que dans mon cœur, maintenant, il y a un réflexe qui n'était pas l'autre fois. Dans mon cœur, maintenant, savez-vous le réflexe que ça a quand je suis aux prises avec la faiblesse humaine, que ce soit la mienne ou celle des autres, ou la réalité humaine, qui n'est pas toujours facile? Savez-vous c'est quoi le réflexe de mon cœur? Puis là je n'ai pas de... Je suis pas en train de vous dire, « Wow, Benoît Lavergne, il a l'affaire. » Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, Jésus a changé quelque chose dans mon cœur. Toute la gloire lui revient à lui. Moi, j'ai rien fait pour ça. C'est lui qui a changé mon cœur. Il l'a basculé. Il a fait quelque chose dans mon cœur qui a fait que ça a basculé. Et c'est ça que j'ai constaté ce soir-là. Même ma femme, à un moment donné, a dit, « Benoît, tu pleures-tu? » Oh, chérie, laisse-moi pleurer. Ça avait tellement touché mon cœur qu'effectivement, là, c'était comme... T'sais, parce que c'est tellement bon. Mais ce que je constate maintenant, et là, je vous le donne, là, c'est que quand je suis aux prises avec la faiblesse humaine, c'est que maintenant, mon cœur va dans la prière. Et ça, pour moi, c'est un changement. Je priais avant, là. Comprenez, là. Mais cette inclinaison à « je vais en parler à Jésus. Je vais emmener ça à Jésus. Je vais interagir. Je vais le remettre entre les mains de Jésus. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux faire avec ça? Comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse si tu veux que je fasse quelque chose? » C'est comme là, il y a cette « boum ». Mon cœur, il fait comme ça. Il va à Jésus. Récemment, il y a quelqu'un de nouveau, justement, qui vient à l'église. Puis, il a passé en bicycle. Puis là, il a vu l'enseigne de notre église. Puis il a dit, « Ah, tiens, il dit, je vais aller faire un tour là. » Fait que, à un moment donné, il vient me voir après un message. Puis là, on commence à parler ensemble. Il m'attendait parce qu'il était patient, là. Souvent, je pars... en dernier. Alors, il était patient, il m'a attendu, puis là, j'ai vu qu'il voulait venir me voir, fait que là, on s'est introduit, puis il a commencé à me parler, puis je voyais qu'il était comme préoccupé, qu'il était comme, il y a quelque chose, en tout cas, qu'il avait de la misère à parler, il avait de la misère à s'exprimer, puis en même temps, c'est comme je voyais qu'il voulait interagir avec moi, fait qu'en tout cas, on a jasé peut-être une demi-heure dans le stationnement, et là, le dimanche d'après, encore là, il est dans le stationnement, puis avec son bicycle, puis là, il attend. Il attend que j'aie fini. Puis là, je sors dehors, puis ça. Puis là, whoop, je m'en vais vers l'auto, puis je vois encore, il s'approche vers moi. Fait que là, on a pris rendez-vous, puis je l'ai rencontré. Puis là, on a passé 2 heures ensemble. Puis là, pour constater qu'il vit des grosses choses, là, tu sais. C'est quelqu'un, là, qui, depuis très, très longtemps, qui a une problématique assez, assez difficile, disons, comme personne. En termes intérieurs, en termes de... Puis, il connaît pas le Seigneur, tout ça. Fait que là, je parlais avec lui, puis là, je parlais avec, j'essayais de comprendre qui il était, d'où il vient, c'est quoi c'est un peu sa personne. Et là, je lui parlais de Jésus. Puis là, je lui parlais de la croix. Puis là, j'ai dit, mais ça, Jésus peut t'aider avec tes angoisses. Jésus peut t'aider avec tes peurs. Jésus peut t'aider. As-tu déjà pensé à Jésus? Ah, oh, il dit, moi, la religion. Elle dit, non. Je dis, gars, je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas d'une institution. Je ne te parle pas d'une organisation. Je te parle de Jésus. Jésus, il est mort à la croix pour toi. Tu savais-tu quand Jésus est mort à la croix pour toi? C'est parce que ton cœur était dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion dans ton cœur. Il y a tellement d'angoisse. Il y a tellement de peur. Il y a tellement de crainte. Tu n'arrives pas à fonctionner. Puis tout ça. Je dis, Jésus, il peut répondre à tout ça dans ta vie. Ah, ouais. Mais tu sais, tu voyais, bon. Alors, il me rappelle à la maison pas longtemps après, il voulait que je le rencontre encore. Je dis non, là, je peux pas te rencontrer, malheureusement. J'ai des choses que je dois faire présentement, puis je peux pas te rencontrer. Mais il y a quelque chose que j'aimerais faire pour toi. Tu me permettrais-tu de prier pour toi? Voyez, mon cœur, il va là. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, juste prier pour toi. J'ai dit, ah, tu m'as partagé ça, puis là, j'y nomme les choses. J'aimerais ça prier, emmener ça à Jésus. Tu sais, Jésus, il est vivant. Puis je vais y en parler, puis j'aimerais ça que tu, si tu acceptes, que tu m'écoutes, simplement m'écouter, puis je vais emmener ça. Là, tout de suite. Il dit, oui, là, tout de suite. Il dit, là, je pourrais prendre là, quelques minutes avec toi au téléphone, puis ça me dérangerait pas, là. C'est plus simple pour moi. Je serais prêt à prendre une pause, puis je vais prier pour toi. Ouais, moi, je crois vraiment que Jésus peut faire quelque chose pour ce que tu vis. Ah, il dit, OK. Fait que là, j'ai dit ceci. J'ai dit, quand je vais prier pour toi, s'il y a quelque chose qui vient sur ton cœur, dis-moi-le. Arrête-moi, dis, ben là, il y a aussi ça. Parce que là, j'ai nommé pourquoi je prierais, les choses qu'il m'avait partagées. Fait que, il dit, s'il y a d'autres choses, dis-moi-le, puis je vais les amener aussi à Jésus. Il dit, OK. Je commence à prier. Puis là, il m'a dit, ah, il dit, oui, il dit, je suis agité. Il se rajoute agité. Fait que là, il dit, OK, Jésus, tu vois, son cœur est agité. Pourquoi son cœur est agité, Jésus? Toi, tu le connais, son cœur. Tu le connais mieux que lui-même. Tu sais pourquoi il est agité comme ça. Puis là, j'ai commencé à prêcher l'Évangile en priant. Je l'ai emmené à la croix. En ayant un Corinthien en tête, pour moi, c'était comme la puissance, elle est à la croix. J'emmène son cœur à la croix. Jésus, quand tu es mort à la croix, est-ce que ça, c'était la réponse? Pourquoi que son cœur est agité? Comment tu voudrais calmer son cœur? Si, puis là je nommais son nom, s'il allait à la croix avec son cœur agité, est-ce que tu l'accepterais? Est-ce que tu prendrais son cœur agité? Y a-tu du péché dans son cœur agité, Jésus? C'est-tu pour ça que son cœur... Et là, je continuais comme ça. Et j'emmenais simplement son cœur. Ah, il dit, il y a aussi... Puis là, il commence à me nommer. Je vois pas clair. Je suis confus dans ma tête. J'arrive pas à faire établir les choses en priorité. Fait que là, j'ai prié pendant une demi-heure, à peu près, comme ça. Juste comme ça. Mais là, les choses, il y a à peu près 7 choses comme ça qui ont sorti de son cœur. Que, avant, il m'avait pas parlé, mais que là, dans la prière, ça sortait de son cœur. Et là, je les emmenais à Jésus. À la fin, savez-vous ce que je lui ai demandé? Comment ça a été? Et voici ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, mon cœur est venu proche de s'ouvrir. Mais à chaque fois qu'il venait proche de s'ouvrir, j'avais peur. Parce que j'ai peur de qu'est-ce qui va arriver si j'ouvre mon cœur. Et là, je savais que la bataille spirituelle, elle était là. Et je savais que la demi-heure que j'ai passée à prier pour lui était la meilleure demi-heure que je pouvais passer avec lui. Parce qu'on était allé à Jésus. Et avant, ce que moi je faisais, je parlais beaucoup. J'expliquais beaucoup les choses. J'essayais de répondre beaucoup aux arguments qui étaient contre et ainsi de suite. Et je priais pas tellement. Et des fois pas du tout. Avec la personne. La puissance de Dieu, elle se trouve où? Avez-vous déjà pensé à ça? Dans sa parole et dans la prière. Parce que quand vous témoignez à quelqu'un, par exemple, puis vous lui annoncez l'Évangile, parce que Paul va en parler de la prédication de l'Évangile ou de la croix, à quel moment il va se passer un miracle? C'est au moment où il dit, « Voudrais-tu prier avec moi? » Par rapport à ce que l'Évangile dit, ce que la parole enseigne. Que je puisse. si tu es prêt à ouvrir ton cœur, à demander à Jésus de venir dans ta vie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le miracle de la nouvelle naissance va se passer à quel moment? Au moment où la personne invoque le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, dans nos vies chrétiennes, dans nos ministères, dans nos relations en tant qu'Église ou les uns avec les autres, la puissance de Dieu, elle est souvent aussi rendue effective dans la prière, en allant à Jésus, parce qu'on va à Jésus. On amène la parole, on amène la personne, le cœur, et on amène ça à Jésus dans la prière. Et le miracle arrive à ce moment-là. Je vais lire ici les versets 10 et 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. Alors ici, c'est quoi qu'on voit? Où est la faiblesse humaine? Avez-vous remarqué? Dans les discordes, dans les divisions. Et où est la puissance de Dieu? Avez-vous remarqué? Dans l'unité, à être parfaitement unis, qu'il nous dit ici. Une même pensée, une même opinion. Naturellement, Paul n'est pas en train de dire « Soyez tous conformes les uns aux autres, habillez-vous pareil, mangez à même place, ayez les mêmes goûts sur votre habillement, l'auto, ainsi de suite. » C'est pas ça, là. Ici, c'est sur les choses essentielles qui nous unissent ensemble comme Église. Une Église qui est en santé, vous savez, c'est une Église où il y a de l'unité, mais pas de la conformité. C'est-à-dire où les gens se sentent vraiment libres d'être eux-mêmes dans bien des domaines de leur vie, que la parole de Dieu ne régit pas. Si la parole de Dieu ne régit pas la sorte de vêtements que je dois avoir, si je dois avoir une cravate pour me présenter devant vous ce matin, et j'en ai pas, puis là, c'est pas correct, c'est pas un bon prédicateur, et tout ça, parce que j'ai pas de cravate. Mais vous savez, il y en a qui ont ça comme critère. Fait que ça, c'est pas là-dessus que Paul est en train de dire « Soyez d'un même cœur ou d'une même opinion, soyez unis. » Mais l'unité est toujours la manifestation de la puissance de Dieu dans une Église. Tandis que les divisions et les discordes sont toujours la manifestation de la faiblesse humaine. Entendez-moi bien ici, là. Il y a la place pour discuter, pour ne pas être d'accord sur tout, et pour rechercher ensemble la sagesse de Dieu et la volonté de Dieu. Et que là, on confronte les idées ensemble, ça a sa place. Mais qu'on le fasse avec grâce, qu'on le fasse avec Dieu dans notre vie, avec le respect de l'autre, avec l'amour, avec la recherche que Dieu soit honoré, c'est toute une autre game. Vous comprenez? Donc, oui, on peut être nous-mêmes, et la parole de Dieu nous encourage à être qui on est, mais non, on ne devrait pas être un endroit où il y a une opposition officielle, par exemple, dans une église. Ça n'existe pas. Sur un conseil de direction d'une église, qu'il y ait une opposition officielle, ça n'a pas sa place. Ça, c'est de la faiblesse humaine. Et malheureusement, des fois, ça existe. Et je sais que ce n'est pas le cas ici chez vous, comme ce n'est pas le cas chez nous, à Trois-Rivières. Mais c'est normal qu'il y ait des tensions parfois, vous comprenez? Sur toutes sortes d'affaires, parce qu'on est des gens engagés, on est des gens passionnés, on a des fois des idées aussi, on a des convictions, mais si on est prêt à mettre tout ça dans la présence de Dieu, ça va être ça la différence. Ça va être qu'on va rechercher ensemble la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Et c'est un peu ce que Paul va communiquer par la suite dans les versets 12 à 17. Parce que là, ici, il fait le contraste entre des gens qui sont impartiales et des gens qui vont être partiales. Regardez bien, quand il dit, j'entends, au verset 12, « J'entends par là que chacun de vous dit, « Moi, je suis de Paul, de Apollos. » Donc, d'autres disaient, suis d'Apollos, et d'autres encore disaient, je suis de Céphas, de Pierre. Alors là, c'est comme si il y avait de la partialité. Alors moi, mon leader que je suis, c'est soit Paul, soit Apollos pour d'autres, ou soit encore là, Pierre pour d'autres. Alors moi, c'est si Paul le dit pas, non, moi ça marche pas. Ou si Apollos le dit pas, non, moi ça marche pas. Ou si Céphas le dit pas, moi ça marche pas. Ça, c'est d'être partial. Et encore, d'autres disaient, moi je suis de Christ. Et donc, en disant, moi je suis impartial. Parce que pour moi, la seule personne vraiment importante, qui a le dernier mot, qui me donne la direction, qui établit où je vais dans telle chose, c'est la personne de Christ lui-même. Et là, il dit, Christ est-il divisé? Et la réponse, c'est non. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Et la réponse, c'est non. Ou bien, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Comme si Paul avait des disciples. Et la réponse, c'est encore une fois, non. Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus, qui était un ancien chef de la synagogue de Corinthe, qui a été converti sous le ministère de Paul dans Actes 18, et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom, comme si, là, il y avait une importance à ça. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Donc, Paul, il dit, pour moi, c'est pas ça qui est important. Pas que le baptême n'est pas important, il n'est pas en train de discréditer ça du tout. C'est juste qu'il est en train de dire, ça n'a pas rapport. Et là, il dit, ce qui, pour moi, me semble être la déclaration la plus fondamentale de Paul ici dans le texte, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage. Et là, c'est particulier à Corinthiens, parce qu'à Corinthiens, plus tard dans l'Épître, on voit qu'il y a ces fameux super prédicateurs qui, eux autres, avaient une rhétorique extraordinaire, qui savaient utiliser l'art oratoire et faire rire les foules, comme dans les festivals juste pour rire. Et là, ces gens-là, quand ils parlaient, là, c'était comme « Waouh! » Comprenez-vous? Il y en a du jus là-dedans, là. Puis il y en a là, de la matière, puis tatatata. Paul, il dit, « Moi, c'est quoi ma matière? » Moi, il dit, « Je me suis préoccupé d'une seule chose, annoncer l'Évangile, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Je vais vous dire ceci ce matin. Si vous entendez un excellent message, mais que ce message-là ne vous a pas emmené à Jésus, c'était un excellent message, mais ce n'était pas un message qui était centré sur la croix. Il y avait peut-être beaucoup de jus dedans. Il y avait peut-être beaucoup d'illustrations. Vous avez peut-être bien ri dans ça. Mais si ça ne l'a pas pointé à la croix, il manquait l'essentiel. Qu'est-ce qui va faire la différence dans votre vie? Qu'est-ce qui va faire la différence dans quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? C'est l'Évangile. C'est Jésus. C'est la croix. Pour moi, maintenant, je partage à l'équipe pastorale, je leur dis tout le temps, si je prêche dans l'Ancien Testament, comme j'ai prêché sur le psaume 1 aussi, quand que je passais prêcher sur ce psaume-là, en passant, en demandant au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait que je vous apporte, puis finalement, bien, j'ai opté. Mais quand je prêche même dans l'Ancien Testament, parce que dans le psaume 1, si vous avez remarqué, Christ n'est pas mentionné. Il y en a qui essaient de le voir dans celui qui est juste. Mais Christ n'est pas mentionné dans le psaume 1. Il y a le juste, puis il y a le méchant. Où est Christ? Savez-vous où il est? Il est là. Même si au moment où le psaume 1 a été écrit, Christ n'était pas venu encore. Et c'est ça la différence. Quand on prêche l'Ancien Testament, il faut prêcher l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et à la lumière de l'importance de la venue de Jésus. Parce que quand j'étais pécheur, dans la voie du méchant, qui pouvait m'emmener dans la voie du juste? C'est Christ. quand je suis dans la voie du juste, mais que je me comporte comme un pécheur, qui n'aime pas la loi de l'Éternel jour et nuit, qui ne la médite pas constamment, qui a de la misère à lire sa Bible, c'est quoi la solution dans ce temps-là? C'est Christ. Autant pour le méchant que pour le juste, Christ est la réponse. Là, je vous ai résumé ça là, très, très sobrement. Il faut en voir Christ. Il faut comprendre que c'est Christ qui est la réponse. Et pourquoi qu'il n'y aura pas de division dans l'Église? C'est si on se tourne vers Christ. C'est ça qui va être la solution. Pourquoi ici, il n'y aura pas de partialité dans l'Église? Eh bien, c'est si je me tourne vers Christ. Si c'est Christ qui est celui qui est cher à mon cœur. Alors, même si c'est un prédicateur qui n'a pas la sagesse du langage, comme dirait Paul, mais je vais aller l'écouter pareil. Puis je vais demander au Seigneur, c'est quoi tu veux m'enseigner à travers lui? Ce n'est pas mon prédicateur préféré. Mais est-ce que je peux entendre ta voix à travers le message? Tu sais, des fois, je comprends qu'on reçoit quelque chose de la parole de Dieu, puis des fois, on n'en reçoit pas ou on en reçoit moins. Moi, je suis comme ça aussi, et je suis certain que vous êtes comme moi. Vous êtes d'accord? Mais j'essaie d'interagir avec Christ dans ce temps-là, de lire dans la parole de Dieu, lire le texte que j'entends, que le prédicateur apporte, et d'essayer de voir Christ. Comment est-ce que mon cœur peut aller à Christ à travers ça? Ben, c'est ça, l'Église. C'est ça, l'Évangile. C'est ça qui va faire la différence. Ensuite, Paul continue en disant, « La sagesse versus la folie. » Versets 18 à 25. « Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Autrement dit, ceux qui excluent Christ de toute leur conception de la vie, de leur connaissance et tout ça, ça c'est voué à l'échec. Et là, c'est pour ça qu'il dit au verset 20, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur? » C'est-à-dire celui qui aime des débats philosophiques, parler, pour débattre, puis gagner des arguments. C'est ça qui est en lien ici de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? C'est comme juste le débat qu'on parlait tantôt, concernant l'avortement. Comme là, la motion qui était emmenée, c'était « Est-ce que le fœtus est un être humain? À quel moment est-ce qu'il devient un être humain? » Puis là, j'entendais après ça, dans toutes les interventions médiatiques, personne n'a posé la question « Mais si tout à coup la science, étant donné qu'elle est tellement développée, nous amènerait à découvrir que effectivement, ce petit embryon-là est vivant, puis que c'est un être humain. Ça serait-tu important qu'on s'arrête là-dessus? Personne ne pense à ça. La seule chose qui est mentionnée, c'est quoi? On n'ira pas en arrière, on ne reculera pas, on diminuera pas l'avance de la cause de la femme dans la société. Puis c'est comme sacré, ça. Mais ça, c'est la folie. Vous comprenez? On n'écoute pas Dieu. On n'écoute pas ce que Dieu a à dire, on écoute juste qu'est-ce que des gens qui nous disent, puis même pas nécessairement toute l'information non plus qu'ils nous disent. Parce que je pense qu'on est rendu assez loin, que même d'un point de vue strictement scientifique, sans aller même dans un côté, disons, à caractère de conviction religieuse ou quoi que ce soit comme ça, on pourrait montrer que, hey, il se passe de quoi, là? C'est là, tu sais. Mais non, ça c'est la sagesse du monde. Mais Dieu l'a déclaré comme folie. Parce qu'il dit ceci, verset 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Il revient encore avec cet élément-là de la croix. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Amen. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu, il parle de la faiblesse de Dieu ici, est plus forte que les hommes. Donc, si Dieu est faible, là, même sa faiblesse est encore plus grande et plus forte que les hommes. C'est incroyable. Dites-moi, est-ce que Jésus a la réponse à quelqu'un qui souffre d'une dépression chronique? Oui. Mais savez-vous que présentement, les antidépresseurs, puis là, encore là, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train d'attaquer l'usage des antidépresseurs, puis même pour les croyants, pour des chrétiens ou des chrétiennes. Mais présentement, on a une avalanche au Québec de personnes, et en particulier des femmes, parce qu'ils vivent tellement de souffrance, ils se sentent tellement seuls, ils sont aux prises avec des choses qui les dépassent, et il n'y a pas personne pour les aider. Mais moi, je crois que Jésus est capable de répondre. Et qu'une personne pourrait être libérée, même éventuellement, des antidépresseurs. Je le crois fermement. Je ne dis pas que ça arrive du jour au lendemain. Je ne dis pas que ceux qui prennent des antidépresseurs, ce n'est pas correct. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se confient pas en Christ, ça? Non, parce que je comprends très bien la problématique, là. Ce n'est pas aussi facile que de le dire, là. Hein? Mais je sais que la prédication de l'Évangile, que la croix de Christ a cette puissance. Et que Jésus est capable de changer des cœurs et de guérir des cœurs blessés. Je le crois de tout mon cœur. Et ensuite, Paul va parler des versets 26 à 29, où là, il va faire encore un contraste entre un aspect de la faiblesse humaine et de la puissance de Dieu. Quand il va parler de l'insignifiance versus la noblesse. Regardez qu'est-ce qu'il dit. « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. » Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Autrement dit, l'argument de Paul ici, c'est le suivant. Il n'y a pas personne qui est sauvé à cause de sa noblesse, à cause de ses capacités humaines, de ses ressources personnelles, à cause de ses antécédents, qu'il est né à la bonne place. Parce qu'ici, c'est tout l'aspect que à Corinthe, il y avait des gens qui étaient de la classe inférieure, puis il y avait des gens qui étaient de la classe supérieure. Puis là, Paul il dit, « Regardez parmi vous, dans le fond, ceux qui sont venus à l'Évangile, c'était pas des gens qui l'avaient, là, qui étaient favorisés par la vie et ainsi de suite. C'est des gens qui étaient dans le besoin. C'est des gens qui étaient considérés comme étant de la classe inférieure. Et qu'est-ce que Christ vient faire dans l'Église? Il vient prendre des gens qui sont de classe supérieure et de classe inférieure, puis il fait quoi avec eux? Il en fait des frères et des sœurs en Christ, où là, il n'y a plus de classe inférieure et supérieure. Il y a juste les liens qui nous unissent ensemble, comme frères et sœurs. Une des caractéristiques dans l'histoire, quand ils étudient l'archéologie et ces choses-là, là, une des choses qu'ils ont remarquées, c'est que quand l'Évangile de Jésus est venu, savez-vous ce qu'il y a eu? Il y a eu un changement de la structure sociale dans l'Église. Parce que tout à coup, les gens qui étaient des citoyens, mettons, romains, et qu'il y avait énormément de privilèges qui allaient autour de ça, et ceux qui étaient des « nobody », hein, qui n'avaient pas de citoyenneté romaine, et qui étaient donc des étrangers, des gens du dehors, tout à coup, dans l'Église, là, il n'y avait plus cette game-là qui était jouée. On était tous des frères et sœurs en Christ. C'est comme, aussitôt que tu mettais le pied dans l'Église, c'était pas Monseigneur un tel, et oui, lui, viens, puis on va te traiter différemment parce que tu as des sous, parce que tu as un réseau, parce que tu as des personnes. Oh, lui, si on ne prendra pas telle décision parce que monsieur, ça n'irait pas dans le sens de ce qu'il aimerait qu'il arrive. Il n'y avait pas de ça. Il n'y avait aucune considération pour ces choses-là. La seule considération, c'était on est tous des frères et sœurs en Christ et on marche ensemble. Et on va mettre en commun même des choses. Et là, les riches partageaient avec les moins riches. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas de réseau comme on a aujourd'hui, mais c'était encore pire dans ce temps-là, dans un sens. Et c'est pour ça qu'on voit, comme dans les Actes des Apôtres, des choses qui se passaient qui étaient extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'était la puissance de Dieu qui transformait des cœurs. Alors, même Jésus est capable de transformer des structures sociales. Et finalement, il finit avec les versets 30 et 31, où là, il va faire un contraste entre lui, Jésus, et nous. Et là, il dit ceci, « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous, quoi? Sagesse. Ensuite, justice. Ensuite, sanctification. Et ensuite, rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Ici, moi, je trouve que c'est une façon extraordinaire de finir ce chapitre-là. Parce que ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il a dit, OK, regardez bien, vous avez été appelés, vous avez été choisis. Ça vient de qui, ça? Ça vient de Dieu, ça vient de Christ. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ici, Christ a été notre sagesse. Et ça, ici, il fait référence au fait qu'à la croix, Dieu a pu respecter sa sainteté et sa justice, tout en manifestant son amour. Et là, on a été sauvés. Christ nous a acquis le salut à la croix. Et en faisant ça, ça montrait la sagesse de Dieu. À quel point Dieu était grand et que son plan était extraordinaire. Comment Dieu, qui est saint, qui ne peut pas supporter le péché, qui peut pas avoir dans sa présence un coupable puis dire, OK, je ferme les yeux, je suis un juge saint et juste, et là, je laisserai passer un coupable et un pécheur. Je peux pas faire ça. Dieu pouvait pas faire ça. C'est impossible. C'est un méchant dilemme, là. Parce qu'on va toujours être des pécheurs. Peu importe le nombre d'œuvres qu'on fait, on va rester des pécheurs. Donc, comment est-ce que Dieu allait régler le problème puis en même temps dire, moi, je suis amour et je veux leur pardonner? Et là, c'est là que Christ vient. Et en Christ, la sagesse de Dieu s'est manifestée. Parce que lui qui était juste est devenu pour nous sacrifice de péché pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu a maintenu sa sainteté, sa justice, et en même temps, il a manifesté son amour. The case is closed. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alors, personne de nous peut se vanter que c'est grâce à ceci, cela, qu'on a été sauvés. Non, parce que, un, on a été choisis, on a été appelés, on a été sauvés en Christ. Et ensuite, il dit quoi? On a été justifiés aussi en Christ. Là, il est en train de parler qu'il y a un vêtement qui a été changé, et là, la justice de Christ nous a été donnée. Christ a mis sur nous un vêtement de justice. Là, maintenant, on est juste. Ça veut dire juste. Ça veut dire, je peux dire ceci sans exagéré, moi, Benoît Lavergne, je ne suis plus un pécheur. C'est plus mon statut. Je pêche encore, OK? Je ne voudrais pas vous pensiez là, que je n'ai pas cette malheureuse réalité que je pêche encore. Je pêche encore, mais moi, quand je me présente devant Dieu, je ne me présente plus comme un pécheur. Je me présente comme un saint. C'est ce que Paul dit dans les premiers versets de l'Épître aux Corinthiens. Vous qui êtes saints, qui êtes à Corinthe, vous êtes saints, sanctifiés en Jésus. Ça, c'est notre statut. Alors, on a revêtu ce vêtement de justice. Ensuite, Paul, il dit quoi? Et là, moi, j'aime ça, là. Parce qu'il dit, Christ, il est aussi quoi? Il est notre sanctification. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais, des fois, on pense que la sanctification, c'est notre affaire. Là, c'est comme si Dieu avait mis ça entre nos mains, là. C'est à moi maintenant là, à obéir à Dieu. C'est à moi maintenant à travailler fort. C'est à moi maintenant à faire des choix, à renoncer au mal, puis là, à pratiquer le bien. C'est à moi maintenant à grandir. Et là, c'est toute une game. Mais il dit ici, Christ est notre sanctification. C'est-à-dire que Christ, tout comme il a réalisé notre salut, tout comme il a réalisé notre justification, ou le fait qu'on était juste, il réalise aussi notre sanctification. Si vous grandissez, si vous êtes transformé, si vous changez, ça va être juste grâce à la présence de Christ dans votre vie. Et si j'ai un défi, moi, personnel, c'est d'inviter davantage Jésus à venir dans ma vie, de revenir à la croix, de le laisser lui agir, de moi de me tasser, de mourir à moi-même comme la parole de Dieu dit ailleurs, ou de renoncer à moi-même. Et là, tout à coup, de dire, « Seigneur, peux-tu prendre toute la place dans ma vie? » Parce que c'est lui qui peut réaliser la sanctification dans nos cœurs. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Et la rédemption, qui naturellement est ici l'ensemble de ce salut complété, ou même dans la rédemption de notre corps, un jour, on va être complètement transformé, autant dans l'être intérieur que dans notre corps extérieur. Et ça, c'est encore l'œuvre de Christ. Et là, il dit ici, c'est quoi? S'il y a quelqu'un qui veut se glorifier, parce que juste avant, pas longtemps avant, il a dit, non, glorifie pas personne. On peut pas se glorifier. C'est impossible. Puis là, ici, il est en train de dire, une petite clause ici. Oui, en fait, on peut se glorifier. Ben oui, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le fait qu'il est en Jésus. Sauvé, justifié, sanctifié et un jour glorifié. Tout ça par qui? Par Jésus. Si Jésus est la personne que vous mettez de l'avant dans votre vie, si Jésus c'est la personne que vous allez mettre de l'avant dans l'Église, peu importe le sujet, le projet, quoi que ce soit, vos discussions, vos décisions, vos vies personnelles, vos vies de couple, vos vies de famille, vous allez voir la puissance de Dieu à l'œuvre et non pas la faiblesse humaine. Vous allez voir la faiblesse humaine diminuer et la puissance de Dieu se manifester parmi vous. Savez-vous ce que les gens vont dire? Il y a quoi ici? Il y a de quoi qui est différent ici? Il y a de quoi qui est différent dans ta vie, Benoît? Il y a de quoi qui est différent à toi? Et savez-vous ce que vous devriez donner comme réponse? La seule différence, c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait ça dans ma vie. C'est Jésus qui a fait ça parmi nous. Et si on est fier de quelque chose, c'est qu'on est fier qu'on a laissé Jésus vivre dans nos vies. Et c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui me conduit. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci encore. Merci de ta parole. Merci de ce que cette parole de Paul aux Corinthiens a été dirigée par ton Saint-Esprit. Non seulement pour cette Église qui était à Corinthe, mais encore pour nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu nous connais chacun de nous. Tu sais, Seigneur, où est-ce qu'on est dans notre relation avec toi. Je sais, Seigneur, que toi, tu ne cherches pas à nous écraser, à nous blâmer, à nous décourager parce qu'on n'est pas là où on devrait être. Non, je sais que toi, à travers ton Saint-Esprit, qui est un consolateur, tu veux te placer à nos côtés, voyant notre peine, voyant notre misère parfois, nos luttes, nos découragements. Et tu veux nous apporter à Jésus. Ô Seigneur, que ton consolateur puisse toucher nos cœurs ce matin, pour que nos yeux s'ouvrent, que tout à coup qu'on voit que Jésus est là, que Jésus est allé à la croix, que son œuvre à la croix a été accomplie, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant maintenant et qu'il est suffisant pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos besoins. qu'il soit pour le salut, pour la justification, tout comme la sanctification. Et un jour, cette glorification. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Prends soin de l'Église évangélique d'aujourd'hui et de chacun de ses membres. En ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen.